Bonjour à toutes et à tous. Quel monde voulons-nous pour demain? C'est cette question existentielle qui donne son titre aux états généraux de la bioéthique lancés jeudi dernier en France. Une interrogation au centre de 6 mois de débat pour en fin d'année aboutir à la révision de l'actuelle loi de bioéthique en vigueur depuis 2011. Un cadre d'échange et de propositions que pilote le Comité consultatif national d'éthique qui implique citoyens, associations, groupes religieux et un comité représentatif, comité citoyen, spécialement constitué pour ces états généraux. Voilà pour le cadre. Et maintenant les thèmes, il est question de procréation, PMA, procréation médicalement assistée, gestation pour autrui, fin de vie, sujets de société, d'autres liés aux évolutions scientifiques, la recherche reproductive, la génétique, le don d'organes, les données de santé, l'intelligence artificielle, les neurosciences, le rapport santé-environnement. Vaste débat, interrogation de fond sur les limites éthiques de la compétence et de l'innovation technique. Car au-delà de cette question initiale, quel monde voulons-nous pour demain ? La société s'interroge sur les compétences qu'elle s'interdit de mettre en application au nom du respect de valeurs partagées. Vaste débat, on le dit, 6 mois pour préparer cette adaptation de la loi aux récentes évolutions dans le domaine de la santé. Pour en parler avec nous, Emmanuel Hirsch, bonjour.
Bonjour Caroline Perret.
Vous êtes professeur d'éthique médicale à l'Université Paris-Sud Paris-Saclay. Ces états généraux, exercice de démocratie sanitaire, c'est l'ambition que s'est fixé le président du Comité consultatif national d'éthique, le professeur Jean-François Delfraissy. Il se trouve actuellement au Cambodge. Nous serons en ligne avec lui en deuxième partie de priorité santé. Et avant cela, nous irons en Belgique où nous retrouverons le docteur Corinne Van Oost, médecin à l'unité de soins palliatifs à la clinique du Bois de la Pierre à Wavre. Le docteur Van Oost qui est membre de la commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie.
Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le projet de loi est prévu pour la fin de l'année et sa discussion pour le début de l'année prochaine. Mais le débat a déjà commencé, il y a plusieurs mois déjà. L'avis du Conseil consultatif national d'éthique sur plusieurs sujets de bioéthique rendu la semaine dernière a déjà été suivi de plusieurs manifestations, notamment sur la procréation médicalement assistée, qu'il est question d'élargir à toutes les femmes, qu'elles soient seules ou en couple avec d'autres femmes. D'autres sujets sont également sur la table et divisent et forcément on pense un peu à ce qui s'est passé lors du débat sur le mariage pour tous. La discussion sur la loi bioéthique peut-elle fracturer la société française? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Caroline Janvier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée La République En Marche de la deuxième circonscription du Loiret, vice-présidente de la mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique. Et Sophie Joissin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sénatrice UDI, groupe Union du Centre des Bouches-du-Rhône. D'abord le constat. C'est un débat comme un autre ou c'est un débat plus sensible qu'un autre, Caroline Janvier?
C'est un débat plus sensible et qui fait appel, à mon sens, à une grille de lecture qui n'est pas politique, puisque d'ailleurs l'idée c'est vraiment de dépasser les clivages politiques et de faire appel à des questions éthiques, philosophiques, juridiques, scientifiques. Donc effectivement c'est un débat d'une nature très particulière.
Sophie Joissin, est-ce que vous l'abordez comme un débat classique ou
non, ce n'est pas évidemment pas un débat classique, c'est un débat éthique, c'est un débat complexe parce qu'il met, il fait appel, je dirais, à beaucoup d'humanité. Au sein de chacun d'entre nous, et ça évidemment, c'est transparti, évidemment.
Oui, parce qu'on se retrouve, en fait, chacun dans sa vie personnelle confronté aux sujets qui sont abordés, c'est ça, hein.
Dans sa vie personnelle, dans sa réflexion, et puis on peut aussi avoir, je dirais, des mouvements contradictoires, un petit peu entre le cœur et la raison, et même des moments différents, lorsqu'effectivement, on pense aux mères, hein, puisque là il s'agit des mères, mais demain il s'agirait peut-être des pères au sein de, enfin, sur la GPA, et c'est encore une pente qu'il faut évoquer aussi, parce qu'elle est malheureusement bien présente. Et si vous voulez, effectivement, il y a toujours une compréhension de la détresse vécue, évoquée, mais en même temps, il y a aussi l'enfant, et l'enfant a des droits. Depuis 72, l'enfant naturel et l'enfant légitime ont les mêmes droits. Une catégorie à part d'enfants qui n'auraient pas droit à l'accès de ses origines et qui seraient programmés de cette manière-là, ça pose un vrai problème sur le plan juridique, sur le plan psychique, sur d'autres choses. Et il est vrai que, quelle que soit la compassion, pour moi, le désir d'enfant ne peut pas se substituer à l'intérêt de l'enfant et à ses droits.
Alors, Caroline Janvier, vous l'avez un peu évoqué, c'est un débat particulier parce qu'il y a plus que d'autres des fondements philosophiques, et disons-le, il y a de l'influence de la religion derrière quand même sur tous ces débats.
Je crois que c'est un débat particulier, d'abord parce qu'il engage chacun d'entre nous, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Il en va du devenir de notre société. Les décisions que nous allons prendre lors du vote de la loi engagent notre société actuelle, mais aussi les générations à venir, puisque bien souvent sur ces questions-là, on ne mesure qu'après coup, que 5, 10, parfois même 20 ans après, les impacts que cela peut avoir. Donc oui, c'est un débat très sensible, mais pas que d'un point de vue religieux, je crois. Les religions ont leur mot à dire et ont une opinion sur ce sujet, de la même façon que les courants philosophiques, que nous avons par exemple auditionné aussi dans le cadre de la mission d'information préalable à cette révision, les obédiences maçonniques, qui là aussi avaient réfléchi et avaient apporté une contribution à cette réflexion. Donc effectivement, tout un chacun, qu'il soit représenté par un courant d'opinion, par une institution, par une association, ou qu'il ne représente que sa voix, a son mot à dire sur ces questions-là.
Sophie Joissin, vous avez parlé évidemment de la PMA, la procréation médicalement assistée, que le Conseil national consultatif d'éthique envisage d'étendre à toutes les femmes, qu'elles soient donc seules ou en couple avec d'autres femmes. Il y a aussi d'autres sujets qui sont sur la table. Donc vous craignez que ça amène à la GPA derrière. On a bien compris votre point de vue. Il y a alors par contre
c'est un point de vue très logique parce que l'extension de la PMA est envisagée, je dirais, sous le principe de l'égalité. Sauf que il n'y a pas de raison finalement que demain les couples d'hommes n'aient pas eux aussi les mêmes droits que les couples de femmes. Comprenez? Donc l'angle en plus sous lequel ce sujet-là est abordé, ne peut que faire envisager la GPA d'ici, au prochain mandat présidentiel.
Et c'est un problème. Que les femmes et les hommes aient les mêmes droits ou
Non, ce qui est un problème, c'est que l'enfant n'est pas un objet.
Ouais.
Voilà.
Alors, on pourrait peut-être en reparler. Je vais peut-être recentrer un peu le débat parce qu'on repasse. On repense forcément à la tension, à la violence verbale ou même parfois physique qui accompagnait les discussions et les manifestations sur le mariage pour tous. Il faut quand même bien dire qu'on a eu un début de quasi-émeute à quelques mètres de l'Assemblée nationale à l'occasion d'une manifestation. Est-ce qu'on peut craindre la même chose avec ce débat, Sophie Joissin?
Alors, le sujet de l'émission, c'est est-ce que l'extension de la PMA risque de fracturer la société française?
Est-ce que les débats bioéthiques en général?
Alors, moi, je ne dirais pas ça. Enfin, je pense que c'est toujours triste de voir une hystérisation des débats et en même temps des conflits tels, parce qu'en fait, il y a beaucoup de souffrances de part et d'autre. Mais au-delà de ça, je pense, en revanche, que ça va fracturer, si c'est adopté, la société française au niveau du statut des enfants qui seront différents. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui auront le droit d'entamer une recherche en paternité et ceux auxquels ce droit sera toujours nié et dénié. On sait quand même aujourd'hui que, et d'ailleurs il y a la loi que Ségolène Royal avait portée en 2002, avait institué donc le comité, c'était le CNAOP, qui est un comité donc sur les origines, qui recueille, je dirais, les désirs des mères, qui essaye de les inciter, lorsqu'elles accouchent sous X, à donner des informations à leurs enfants. Aujourd'hui, alors qu'il y a à peu près, en moyenne, 600 enfants qui naissent chaque année sous X, il y a déjà eu 7900 demandes d'enfants qui sont à la recherche de leurs origines. Quand on voit ça, on peut quand même s'interroger.
C'est quelque chose qui interpelle Caroline Janvier, ce besoin de connaître ses origines, la façon dont on a été conçu.
Ça se respecte.
Tout à fait, moi je trouve que c'est une attente tout à fait légitime et dont on n'avait d'ailleurs pas conscience au moment de l'autorisation de la PMA avec donneur. Donc effectivement, je trouve que c'est une attente tout à fait légitime. Pour en revenir à la question que vous posiez qui était du risque de clivage de la société en faisant une comparaison avec ce qui s'est passé pour la loi sur le mariage pour tous, je crois que ce risque existe, mais je crois que pour ne pas arriver à cette situation, il faudra faire preuve de beaucoup d'écoute et beaucoup de rationalité dans les débats. Parce que plus on politise les questions et plus on laisse les termes du débat aux mains d'entités ou d'acteurs qui ont une vision moins représentatives et peut-être plus extrêmes sur certains sujets, plus les citoyens auront le sentiment de ne pas avoir été écoutés, de ne pas avoir participé. Donc je crois vraiment qu'un des enjeux majeurs, au-delà du contenu du débat, ce sont voilà, les termes du débat et la façon dont d'ailleurs on a commencé à travailler, que ça soit dans le cadre des états généraux qui ont été pilotés par le CCNE, la mission d'information qui est en cours dans le cadre des travaux parlementaires. Voilà, on a tous intérêt à ce que chacun sorte grandi de ce débat et ait le sentiment d'avoir pu contribuer et être écouté.
Il ne faut donc
puis
pas
ça pose
que...
aussi.
Il faut pas. Faut... Alors allez-y, oui.
Puis ça pose aussi dans une société, je dirais, la place du père. Si on peut s'en passer aussi facilement, finalement, à quoi sert-il? Je veux dire, la question se pose,
la réponse à ces questions est de fait très compliquée. Pour rebondir
sur ce que
vous
avez vu l'évolution de la législation depuis quelques années sur la garde partagée,
je voulais juste vous répondre
sur les congés de paternité.
Oui,
c'est bel et bien qu'à un moment donné, il y a aussi un rôle.
Laissez Caroline Janvier vous répondre.
Allez-y. Voilà, je voulais vous répondre sur la première chose que vous aviez dite sur l'aspect la revendication que vous pensez qui va suivre par les pairs pour la GPA sur le plan de l'égalité. D'un point de vue technique, ça n'est pas pertinent puisque, et les conseillers d'État l'ont rappelé, il y a discrimination, il y a traitement inéquitable quand on a une situation équivalente au départ. Et de fait, les hommes qui ne peuvent pas porter un enfant, qui n'ont pas d'utérus, ne sont pas dans la même situation que les femmes. Donc il n'y a pas, d'un point de vue strictement technique, juridique, de discrimination en traitant différemment les femmes en l'autorisation à l'accès à la PMA et non les hommes à l'accès à GPA. Et d'un point de vue politique, comme vous le savez, c'est aussi un sujet très différent, puisque dans le cadre de la GPA, il y a l'intervention d'un tiers, en l'occurrence la mère porteuse. Donc c'est là où je crois qu'il faut examiner avec soin les termes et les aspects précis de mesures politiques.